Bonjour. Parmi les nombreux fantasmes qui agitent régulièrement les médias dominants se trouve en bonne place le lycée de banlieue. Le lycée de banlieue où le niveau baisserait, où certains sujets seraient désormais interdits d'enseignement et où l'autorité serait quotidiennement bafouée. Alors, à cet égard, il m'a semblé que les troubles, les blocages et les gardes à vue de nombreux lycéens depuis la rentrée au lycée Joliot-Curie de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, fournissaient un excellent cas d'école. Nous allons donc disséquer ce mouvement de lycéens et son écho médiatique avec trois invités aujourd'hui dans cette émission. Kaïté Rada, vous êtes professeur de maths et vous étiez professeur de maths dans le lycée Joliot-Curie de Nanterre. Je dis vous étiez puisque vous venez d'être muté dans l'intérêt du service. Procédure peu connue à l'extérieur de l'univers de l'éducation nationale, je dois le dire. Et j'ajoute que vous êtes co-secrétaire départemental de Sud Éducation dans les Hauts-de-Seine.
Que j'étais aussi du coup, puisqu'à cause de la mutation... dans les Yvelines, de fait.
Ah bah oui, dans les Yvelines, maintenant. Bah vous, mais j'allais dire, ils ne vous ont pas débarqué dessus d'éducation parce que vous avez été muté, quand même.
Mais de fait, statutairement, je ne peux plus avoir de mandat syndical.
D'accord. Dans les Hauts-de-Seine.
Dans les Hauts-de-Seine.
Voilà. Deuxième invité, Barbara Martin, en visio avec nous depuis Toronto, au Canada. Vous étiez jusqu'à l'an dernier proviseur de ce même lycée Joliot-Curie et vous publiez ces jours-ci votre témoignage chez Fayard sous le titre « La méthode Barbara ». Vous dirigez aujourd'hui le lycée français de Toronto. J'ajoute qu'il est 6h du matin à Toronto, donc merci de nous avoir rejoints en direct. Enfin, Hélène Carreille, vous êtes professeure des écoles et vous aussi, vous avez été mutée au printemps dernier dans l'intérêt du service, comme on dit, de l'école Marie Curie de Bobigny. Vous êtes également syndiquée à Sud Éducation. Alors, on va commencer par rappeler ce qui se passe depuis la rentrée au lycée Joliot-Curie de Nanterre, une quinzaine de gardes à vue à ce jour, souvent assez longues, plusieurs policiers blessés, plusieurs convocations devant le juge des enfants. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la rentrée y a été passablement mouvementée. Pour quelles raisons ? Si on regardait les chaînes de télévision qui en ont rendu compte, on a du mal à se faire une opinion tant elles ne sont pas d'accord entre elles.
L'actualité dans notre région, 14 jeunes, en majorité mineurs, ont été placés en garde à vue hier à la suite d'une tentative de blocage du lycée de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Ils protestaient contre la mutation d'un enseignant syndicaliste.
Mardi, pour protester contre l'arrêt de l'aide aux devoirs, des lycéens se rassemblent devant l'établissement, mais le blocus dégénère.
Des tensions liées à la mutation d'un enseignant syndiqué, à un nouveau règlement intérieur aussi sur la tenue des élèves, et les familles dénoncent des violences disproportionnées.
À l'origine de cette flambée de violence, plusieurs revendications. Le retour de 4 professeurs mutés par décision du rectorat, l'augmentation des heures d'aide aux devoirs ou encore la fin des dérives de la direction que les élèves qualifient d'autoritaire. En toile de fond de ce dernier point, beaucoup de lycéens remettent en cause les contrôles vestimentaires visant à interdire le port de l'abaya.
Voilà, donc plusieurs causes évoquées par les chaînes de télévision, ce que la journaliste polémiste du Figaro, Eugénie Bastier, sur le plateau de CNews, a résumé à sa manière.
Cette manifestation illustre de manière chimiquement pure ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, parce qu'on a quand même une revendication qui est à la fois contre la mutation d'un professeur syndicaliste et pour le port de tenue religieuse. Donc on a vraiment voilà, cette espèce de convergence des luttes.
Ce conglomérat, ouais.
Ce conglomérat qui, avec des lycéens qui en fait, ont surtout envie de contester l'ordre public.
Alors, on va prendre tous les points un par un. Je voudrais qu'on commence par, que vous commenciez par nous raconter votre cas. Donc, vous êtes muté dans l'intérêt du service. Ça veut dire quoi ?
Alors, en fait, d'abord, j'ai été suspendu donc, par un arrêté du 30 août. Donc, vraiment, juste avant le début des cours au lycée Joliot-Curie de Nanterre.
Avant la rentrée ?
Voilà. Moi, j'ai pris connaissance et j'ai eu en main propre l'élément, vraiment, la veille de mes premiers cours.
Voilà, il faut souligner ça. C'est la veille de la rentrée qu'on vous dit « Vous n'enseignerez pas à Joliot-Curie cette année ».
C'est ça. En tout cas, que je suis suspendu pendant 4 mois. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il y avait, bon, il y avait évidemment, enfin, il y avait pas de motif en fait, parce que la suspension n'étant pas considérée comme une sanction disciplinaire, l'administration n'est pas tenue en fait de donner un motif, de donner une motivation. C'est d'ailleurs, je pense, un point important. Et donc, du coup, il n'y avait pas de motif. Alors, il se trouve qu'en plus, j'avais consulté mon dossier administratif le 30 juin, donc quelques mois auparavant, qui était totalement vide. Donc, je n'avais vraiment aucun moyen de comprendre la raison de ma suspension.
Il faut bien comprendre ça. L'administration, officiellement, ne vous reproche rien.
Alors, en tout cas, il n'y avait strictement rien dans le dossier administratif au 30 juin.
Bah, donc, elle ne vous reproche rien, officiellement.
Administrativement, on va dire.
Oui, administrativement.
Oui.
Parce que... Ah oui, non, mais oui, enfin, dans ce qui est écrit, dans les rapports écrits, qui sont extrêmement nombreux au sein de l'Éducation nationale, on ne vous reproche rien. Mais alors, pourquoi vous faites cette distinction? Parce que, par ailleurs, d'une autre façon, on vous a adressé des reproches?
Alors, en fait, les reproches précis font remonter un petit peu plus avant, c'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle une mission d'inspection, ce qu'ils appellent les missions d'inspection à 360 degrés, ce que nous, on appelle plus couramment des audits. Enfin, c'est des inspecteurs généraux de l'Éducation nationale qui viennent dans les établissements scolaires pour faire ce qu'ils appellent des missions d'inspection à 360 degrés. Et la particularité de ces missions-là, c'est que, contrairement aux anciennes enquêtes administratives, elles sont beaucoup moins formalisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de convocation écrite, hein, il n'y a pas de procès-verbal, il n'y a pas de rapport final à la fin. Et donc, le rectorat de Versailles, quand il a été interpellé par mes collègues qui se sont mis en grève immédiatement dès le 5 septembre, a tout de suite répondu aux Parisiens en disant la raison pour laquelle nous avons souhaité suspendre M. Terrada, c'est suite aux auditions de la mission à 360 degrés.
– Dont vous ne connaissez pas les résultats
– Dont les conclusions n'ont jamais été… Le rapport complet n'a jamais été communiqué malgré les multiples demandes à la fois de moi-même et de l'ensemble de mes collègues. Et donc le motif, c'est de ramener la sérénité au lycée Joliot-Curie de Nanterre. Donc ce qu'on comprend en filigrane, c'est que du coup je suis nuisible à la sérénité du lycée Joliot-Curie de Nanterre et qu'il fallait absolument m'extraire de ce lycée.
– D'accord, ah ben, ça tombe bien puisque justement nous avons à Toronto Barbara Martin qui est votre ancienne proviseure. Madame Martin, vous avez été proviseure de Joliot-Curie pendant 3 ans, de quelle année à quelle année ?
2018 à 2021.
De 2018 à 2021, est-ce que vous avez constaté que Kai Terrada troublait la sérénité du lycée Joliot-Curie de Nanterre ?
Non. non. J'ai bien travaillé avec Kai Terrada, comme avec les autres représentants des syndicats.
Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est une réponse claire. Hein. Alors, on détaillera un peu tout à l'heure. Alors, vous aussi... vous êtes une autre mutée dans l'intérêt du service. Pouvez-nous raconter... Alors, on a vu que ça avait quand même été très brutal dans le cas de Kai Terrada, parce qu'il l'a appris la veille de la rentrée. Comment ça s'est passé pour vous ?
C'était tout aussi brutal. Donc, moi, je suis dans le premier degré, donc je représente les mutées, on va dire, dans l'intérêt du service du premier degré. On n'est pas très nombreux et nombreuses. Dans le 93, en Seine-Saint-Denis, en un an, on a été quand même 7 mutées dans l'intérêt du service. Donc, moi qui ai été mutée en 2021, à l'école, donc j'étais à l'école Marie Curie de Bobigny, et en 15 jours, ça faisait 10 ans que j'étais dans cette école, enseignante dans cette école, et en 15 jours, je me suis retrouvée donc, à devoir quitter cette école pendant les vacances. J'ai reçu une convocation pour aller consulter mon dossier, donc moi, c'est pas comme cas, j'y suis pas allée de moi-même. Donc, dans les autres cas, c'est à peu près la même chose pour les autres camarades de l'école Pasteur à Saint-Denis. On a reçu une convocation pour aller consulter notre dossier administratif. Au préalable, là, c'était inscrit d'une mutation dans l'intérêt du service.
– Ah oui, on vous a prévenu quand même, vous ?–
Dans le document on nous demandait d'aller consulter notre dossier. Donc, je suis allée...
combien de temps avant la mutation effective ?–
15 jours à peu près. –
15 jours.
– Donc, je suis allée consulter mon dossier. Pareil, il y avait très peu d'éléments dedans, des mails syndicaux, mais en double. Alors, il n'y avait pas rien dans mon dossier. Il y avait pas mal de choses dans mon dossier, mis à la va-vite, puisqu'il y avait des choses écrites, des choses en double, des documents qui ne me concernaient même pas. Et je suis allée consulter mon dossier le mercredi avant les vacances d'hiver. Le vendredi, j'ai quitté mes élèves en leur disant il y a une mobilisation dans l'école des parents et des collègues donc pour me soutenir et pour que je reste dans cette école. Donc les élèves m'ont demandé est-ce que maîtresse, on te revoit à la rentrée, comment on fait, etc. Je leur ai dit écoutez, l'inspectrice n'a rien décidé. On fait comme prévu, on range la classe et on se revoit le lundi de la rentrée. Et le lundi des vacances, j'ai donc reçu la lettre qui m'affectait dans une autre école. Donc je suis allée chercher mes affaires pendant les vacances et je n'ai jamais remis les pieds dans cette école, ni dit au revoir à mes élèves.
Alors, il faut dire que moi, personnellement, j'ai découvert cette procédure de la mutation dans l'intérêt du service, c'est-à-dire de la mutation parfaitement arbitraire et, je veux dire, du jour pour le lendemain, je l'ai découvert à l'occasion de vos deux affaires en cette rentrée. C'est quand même relativement peu connu et, j'imagine, relativement peu pratiqué dans l'éducation nationale, statistiquement.
Alors, ce que je peux, moi, dire, c'est que... Je pense que le changement intervient en 2019 puisqu'il y a la loi de la refondation de la fonction publique qui permet en fait de faire des suspensions et des mutations dans l'intérêt du service sans passer par les commissions paritaires. D'accord. Donc sans le contrôle des syndicats, alors qu'auparavant c'était le cas. Et c'est ça, je pense, qui fait que on a eu une explosion depuis 2019. Des mutations dans l'intérêt du service
une explosion, c'est-à-dire on peut chiffrer à combien de cas par an ?
C'est-à-dire que, nous en tout cas en tant que militants syndicaux, jusqu'en 2019, des cas de camarades sur toute la France, de gens qui se faisaient muter dans l'intérêt du service, on n'en entendait pas parler même, je pense. Ça n'arrivait, j'ai pas de mémoire de cas précédemment. Et depuis 2019, on en voit arriver au moins un tous les mois, moyenne.
Depuis 2019, voilà.
En moyenne, si on compte tous les cas qu'on peut
recenser. Ce que j'ai oublié de dire à propos de votre école à Bobigny, c'est que, alors je ne sais pas si c'est important dans l'histoire, on en reparlera, c'est une école qui pratique la pédagogie Freinet, et c'est une école qui était sous la direction d'une directrice qui était un peu connue quand même nationalement, Véronique Decker, et que nous avions même reçu Arrêt sur Image en 2010 l'émission Ligne Jaune, et où on voit qu'on pouvait la qualifier de forte tête par rapport à sa hiérarchie, déjà.
Qu'est-ce que vous contestez? Quelles sont les mesures que vous ne voulez pas appliquer, que vous refusez, on peut appeler les choses comme ça, d'appliquer?
Mais en fait, il y a une avalanche de mesures absolument étouffantes qui visent à la destruction de l'école publique et à la promotion de l'école privée. Voilà. Dans cette avalanche, le premier truc qui nous a fait résister, c'est la suppression de 2 heures par semaine pour les élèves, qui conduit d'ailleurs aux élèves d'école primaire à rater une demi-année d'école. 2 heures par semaine sur 8 ans d'école constitue une demi-année d'école.
Résister, désobéir.
C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend même pas comment on va les mettre en place. Et moi, je ne souhaite pas mettre en place quelque chose qui ferait qu'on supprimerait le rasette de l'école, parce que je travaille à Bobigny et que nous avons besoin d'aide spécialisée pour les enfants en difficulté.
Voilà. Le point commun, un autre point commun entre vos deux cas, c'est que effectivement, c'est un changement de chef d'établissement qui a conduit à vos mutations. Sous l'autorité de Véronique Decker, vous pouviez travailler tranquillement et il n'y a eu aucune menace contre vous, de la même manière que dans les 3 années pendant lesquelles Barbara Martin était la proviseure du lycée Joliot Curie, ça s'est bien passé.
Et même les 16 années avant.
Pardon ?
Enfin, même les 16 années précédentes.
Y compris les 16 années précédentes. Bon, alors, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Si officiellement, il n'y a rien contre vous, on a quand même des petits indices, des raisons pour lesquelles vous avez été muté. Et que moi, de ce que j'ai compris, je résumerai en disant vous étiez une forte tête syndicale. Et la raison, c'est celle-là. Et ça s'est manifesté notamment au moment dans la dernière période, au moment de la réforme du bac, la réforme Blanquer du bac. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça ?
En tout cas, nous, l'analyse qu'on fait, c'est que c'est de la répression syndicale.
Oui, voilà.
Après, est-ce que je suis une forte tête, je suis pas forte tête, je ne sais pas si je suis le meilleur placé pour en juger.
Mais... Non, c'est mon expression à moi, hein, on est bien d'accord. Alors, comment ça s'est passé, Barbara Martin, au lycée Joliot-Curie, à propos de cette réforme du bac initiée par Jean-Michel Blanquer?
Par rapport à la phrase que disait Monsieur Terrada sur depuis 2019, il y a une explosion, il y en a de plus en plus. Je voudrais juste aussi rebondir sur le fait que du coup il faut se poser la question du pourquoi. En fait, on cherche juste à savoir ce qui se passe entre la hiérarchie et communauté scolaire. Je pense qu'il faut aussi se poser la question de pourquoi est-ce que les communautés scolaires revendiquent, qu'est-ce qui se passe au sein des communautés scolaires. Et je pense qu'il faut qu'on pose sur la table la question de la souffrance dans les établissements scolaires et dans les communauté, et que si on se pose cette question-là, peut-être qu'on ira vers le vrai sujet qui est qu'il y a une fatigue. Et donc, maintenant, si je reprends ce qui s'est passé, on a cumulé en l'espace de 3 ans des événements qui ont été des événements très difficiles. Et la réforme du lycée, mettre en place une réforme du lycée, une réforme du baccalauréat, une réforme de la voie professionnelle, c'est quelque chose qui est difficile, forcément, et c'est ajouté du structurel et du conjoncturel à tout ça, qui a rendu les choses difficiles.
Alors, concrètement, la réforme du bac, donc le ministère impulse cette réforme. À la base, il y a une contestation vigoureuse dans un certain nombre d'établissements, dans un grand nombre d'établissements. Comment ça se passe chez vous ?
La contestation vigoureuse, à chaque fois, elle est sur des faits qui sont... c'est sur du factuel, c'est pas une contestation pour une contestation. Donc la contestation, c'était les E3C, c'était ce qu'on devait mettre en place. Et la première...
Les E3C, les épreuves communes de contrôle continu, donc, parce que la philosophie de cette réforme, c'était d'accorder une plus grande place au contrôle continu par rapport à l'examen proprement dit. Voilà. Et donc, il fallait mettre en place les épreuves de contrôle continu, les E3C.
C'est ça. Sauf que les épreuves de contrôle continu, c'est pas le contrôle continu, c'est bien des épreuves. Donc du coup c'est ça la différence. Donc il y a une partie qui était du contrôle continu, mais les épreuves restent des épreuves et elles arrivaient très tôt dans l'année. Et donc comme notre boussole, et je pense, on a tous la même boussole, ce sont les élèves. La préoccupation de la communauté scolaire, comme la préoccupation des élèves, c'était de se dire qu'ils n'allaient pas être prêts et de pas se sentir sur le même pied d'égalité dans tous les établissements scolaires.
Donc la contestation est là. Donc ils refusent de subir ces épreuves.
Oui.
On est bien d'accord, le lycée est bloqué.
Oui.
Et alors, vous, quelle attitude vous avez à ce moment-là ?
Sur le vrai jour du lycée bloqué, on se retrouve à 8h moins le quart devant l'école et l'école est bloquée. Et donc, du coup, je fais le choix d'envoyer un mail pour dire que pour l'instant, nous n'allons pas passer les épreuves de 3C. En tout cas, cette semaine-là, on ne passera pas les épreuves des E3C Et du coup, je voulais juste donner aussi l'importance de l'école, donc remettre au centre l'école. Donc, on avait des élèves de terminale et de seconde, et donc les premières n'allaient pas passer les épreuves de 3C, mais j'avais envie que l'école réouvre pour que les autres élèves et les étudiants puissent entrer et aller en cours.
D'accord. Vous vouliez débloquer, parce que la situation, ce jour-là, la situation est bloquée, vous souhaitez la débloquer, donc de votre propre initiative, vous décidez de ne pas passer les fameuses épreuves, alors que les ordres de la hiérarchie étaient que les chefs d'établissement fassent l'impossible pour que ces épreuves se déroulent.
Oui.
Ben donc vous entrez en rébellion.
Non mais... J'entre pas en rébellion. Je fais ce qu'il faut pour que l'établissement à la fois soit en sécurité, qu'il n'y ait pas de phénomènes de violence qui reviennent, parce qu'on était passé par des phénomènes de violence et donc on avait lutté contre la violence. S'il y a bien du contre, c'est contre ça. Et donc, si on regarde, je ne suis pas contre la loi. Je sors peut-être du cadre parce que je fais ce choix-là à ce moment-là et je pense que c'était le choix qu'il fallait faire et j'en suis encore aujourd'hui convaincue, mais je respecte la loi. La loi, elle dit que les E3C, il fallait les passer sur les 2 années, donc je ne suis pas hors la loi.
D'accord. Alors, je crois que vous avez à ce moment-là, ce jour-là, à vos côtés, une représentante de votre hiérarchie. Comment ça se passe avec elle ?
Elle est juste dans l'observation pour voir ce qui se passe et puis voilà,
Ouais, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que ce que vous m'avez raconté, je suis désolé, ce que vous m'avez raconté avant l'émission, c'est qu'effectivement, vous arrivez à débloquer le lycée en promettant que les épreuves seront remises ultérieurement, et une fois que le lycée est débloqué, elle vous demande de les faire passer quand même.
Alors, moi, je promets rien au moment, je promets rien à mes élèves ni à personne. En fait, ce que je promets, c'est qu'il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute de savoir comment est-ce qu'on les passe ces E3C. Mmh. Donc, voilà. Donc, moi, je promets rien à personne. Je dis d'ailleurs avec optimisme, parce que je suis comme ça, que moi, il n'y a pas de violence. Et donc, je suis. C'est un premier fait, il n'y a pas eu de violence. Et donc, les élèves rentrent. Et après, je laisse les élèves de première aller faire une rencontre l'amphithéâtre pour qu'ils puissent justement discuter entre eux et laisser justement le syndicalisme se faire et se faire correctement dans la communication et le dialogue. Et donc, là, à ce moment-là, la demande est celle de pouvoir néanmoins, maintenant que c'est ouvert, faire passer les E3C, mais ce que je refuse.
D'accord. Le mouvement de contestation de la réforme du bac, c'est d'abord un mouvement d'élèves ou c'est d'abord un mouvement de profs ?
Les tout premières actions qui ont eu lieu, c'était des mouvements d'enseignants, puisqu'en fait, nous, on nous avait demandé en amont de toutes les épreuves de commencer à regarder les sujets, de commencer à préparer les sujets qu'on allait proposer aux élèves. Donc c'était beaucoup plus en amont par rapport au moment où devaient se passer les épreuves. Donc déjà, dès cette période-là, on avait déjà exprimé notre opposition. Alors juste pour donner des détails de à quel point, au-delà de l'aspect philosophique du contrôle continu, pas contrôle continu, nous on est très attachés à l'examen final. Mais en dehors de ça, c'était tellement, je ne peux pas dire autrement, penser avec les pieds, que c'était vraiment, même pour des gens qui pouvaient être éventuellement d'accord avec l'histoire du contrôle continu, etc., c'était inconcevable. Pour vous donner un exemple, le programme de seconde changeait cette année-là, et l'épreuve qui était prévue pour les premières était calquée sur le nouveau programme de seconde. C'est-à-dire que les élèves de première qui arrivaient là avaient été formés avec l'ancien programme de seconde, et ils devaient être interrogés sur des notions qui normalement auraient eu qui apparaissaient après. Donc c'était totalement aberrant en fait comme proposition. Donc à tout point de vue, on ne pouvait pas être d'accord. Donc dès les sujets, de toute façon, mais ces sujets-là, ça ne correspond pas à ce qu'on a travaillé l'année dernière avec les secondes. On fait quoi avec ça? Donc ça avait commencé comme ça, il y avait des mouvements de grève. Il y a une communication aussi qui a été faite auprès des parents d'élèves pour expliquer pourquoi est-ce qu'on pensait que vraiment, ce n'était pas possible, quoi. Il y avait un problème majeur sur cette question-là. Et après, il y a eu, au fur et à mesure, les élèves ont progressivement compris ce qui les attendait. Et donc, du coup, il y a eu des mobilisations élèves, donc un sit-in à l'intérieur de l'établissement, des assemblées générales, jusqu'à donc le blocage du lycée le jour même.
Si vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, c'est que les élèves, d'une certaine façon, se sont sentis légitimés dans leur propre mouvement par le fait que la réforme était contestée par les profs eux-mêmes, quoi.
Moi, je pense que c'est évident que la façon dont on a contesté, nous, la réforme, y compris sur son contenu, y compris sur le côté qui était totalement infaisable, forcément, ça a joué sur la prise de conscience des élèves. Après, voilà, est-ce que… J'ai pas non plus envie de raconter…
Vous n'êtes pas dans la tête des élèves.
Voilà, non plus envie de raconter qu'en fait… c'est pas du tout. Enfin, il faut.
Vous n'avez pas envie de raconter quoi ?
Non, enfin, j'ai pas envie de qu'on tire la couverture tout à nous. C'est nous qui avons fait que ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, on ne peut jamais savoir en vérité quelle est la part.
Et puis on n'est pas dans la tête des élèves. Comme on va le voir d'ailleurs avec le deuxième motif allégué du mouvement actuel de la rentrée. Alors cette fameuse histoire des abayas. Donc on a entendu qu'un certain nombre de médias ont présenté ce mouvement comme étant le résultat aussi, la conséquence d'une plus grande sévérité de la nouvelle proviseure du lycée Joliot-Curie de Nanterre quant au port des abayas. Alors les abayas, je pense que vous entendez parler depuis plusieurs jours sur vos chaînes préférées et dans la presse, ce sont ces robes longues portées par un certain nombre de jeunes filles dont on va dire dont la question est de savoir s'il s'agit d'habits religieux, d'habits culturels, ou simplement d'habits à la mode et qui leur plaisent. Alors, ce point-là, comme on pouvait l'imaginer, a été ultra médiatisé par un certain nombre de chaînes. Et justement, il en était question cette semaine dans une émission de BFM, Ligne Rouge, sur, entre guillemets, la nouvelle offensive du voile.
Faut-il accepter l'abaya en cours ? La question embarrasse les responsables d'établissements scolaires. Dans ce lycée de Nanterre, la direction a décidé de durcir le ton depuis septembre 2022. Plus d'une dizaine d'élèves ont filmé et diffusé leur réaction après s'être vu refuser l'accès à l'établissement le jour de la rentrée.
Elle a dit que c'est la loi. Parce que là, on voit la religion.
Je vois ma religion dans ma robe.
Donc là, tu vas me voir comme ça, si tu dis je
vois ta religion. On va
Madame, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui se passe devant le lycée Jean-Luc Curie?
Après, dans l'exemple, on n'a pas le droit d'enlever que le voile. Je vous dis, la robe, c'est dehors.
Vous dites dehors.
Ça aussi, c'est dehors.
Ils ont dit, c'est des habits.
Cet élève affirme que les années précédentes, sa tenue ne posait pas problème.
Cette année, je suis arrivée à la rentrée, les surveillants m'ont attrapée. Ta robe ne sera plus acceptée. Moi, j'ai pas compris, parce que ça fait 5 ans que je suis là. En 5 ans, on m'a jamais rien dit, donc je suis passée au-dessus. Et du coup, je suis revenue la semaine de la rentrée, j'ai quand même mis ma robe. Et les proviseurs m'ont attrapée dans le couloir. Ils m'ont dit, oui, ça, c'est une robe qu'on n'accepte plus. Je leur ai montré, elle était blanche ce jour-là. J'aurais dit, mais il n'y a rien, elle est blanche, elle est simple. Donc j'enlève mon foulard, mon bonnet, enfin il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui prouve que je suis musulmane, enfin.
C'est même pas des robes musulmanes, c'est juste culturel. Dans certains pays on l'aimait, mais ça n'a jamais été religieux et je vois pas pourquoi ça a été interdit. Non, en fait c'est ça, moi, pour moi ça devient juste de la discrimination et ils cachent même plus leur racisme et leur islamophobie, c'est tout.
Alors, ce que disent ces élèves, c'est que quand vous étiez proviseur, Barbara Martin, les abayas étaient autorisés dans l'établissement. Alors est-ce que c'était un enjeu à l'époque? Comment vous le gériez? Comment ça se passait?
Ce qui est terrible, en fait, c'est aussi la façon dont on sert des élèves pour faire ce qu'on veut avec. Moi, mon métier, c'est de m'occuper des élèves, c'est de les faire réussir, de les faire devenir qui ils sont et de les faire s'épanouir. Donc, ce sujet n'était pas un sujet. Et quand il était un sujet, on le prenait à bras-le-corps et on en discutait. Ça n'a jamais été un problème, le port de l'abaya, puisque... il était ni ostensible, c'est pas un vêtement ostensible, et il suffit de s'en référer au.
Si, c'est ostensible. Une abaya, ça se voit. Si on dit ostensible, de fait, c'est ostensible.
Non, en fait, c'est pas ça se voit, c'est fait pour se faire remarquer. Et donc, en fait, non, elles ne mettent pas ça pour se faire remarquer. Et l'autre chose, c'est que c'est pas du prosélytisme, parce qu'il n'y a aucune discussion autour de la religion, et j'en ai pas eu avec ces élèves-là. On a parlé de l'école avec ces élèves-là.
Mais alors, comment ça s'est passé? Vous avez engagé des dialogues avec des élèves qui avaient mis des abayas? Comment ça s'est passé? C'est vous qui avez eu l'initiative d'engager la discussion?
En fait, l'abaya n'a jamais été un sujet. Le voile a été un sujet, mais l'abaya n'en a jamais été un.
N'en a jamais été, ça veut dire qu'il n'y en avait pas, ou ça veut dire que vous considériez qu'il n'y avait aucune raison de s'opposer au port de l'abaya?
Oui, c'est ça. En fait, je crois que c'est pire que ça. Je crois que je n'avais pas de raison de discuter vêtements, ni crop top, ni jean troué, ni abaya, en fait. Donc voilà. Par contre, le voile a été une discussion. Et donc, on a discuté du voile. Parce qu'on a fait la différence entre la loi, on a expliqué la laïcité. Et donc, quand j'entends tout à l'heure la première vidéo que vous avez mis, la revendication de porter une tenue religieuse, du coup, c'est vraiment dommage parce que l'école, c'est pas ça. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une vraie reprise, en fait. Les élèves, ils ont revendiqué autre chose et ils revendiquent pas de porter une tenue religieuse.
Alors, je vous pose la question parce que votre lycée a fait l'objet d'un reportage dans le magazine L'Express en 2019. Donc, 2019, c'est l'époque où vous étiez proviseur. Donc, c'était titré « Filles voilées en cours, atelier racisé des lycées hors des clous de la laïcité ». Donc, il était question de plusieurs lycées, dont Joliot Curie de Nanterre, et j'extrais simplement un passage de ce papier. Les profs font des cours à des élèves parfois fichés S, délinquants violents ou juste sortis de prison, ou à des salafistes à l'hostilité décomplexée. Est-ce que vous reconnaissez votre lycée dans cette peinture, votre ancien lycée?
Ce que je reconnais, c'est que les professeurs font font cours à 30 élèves par classe, et que c'est énorme et que le travail est difficile. et qu'on accueille chaque année 500 élèves de seconde et qu'on a énormément de choses à faire parce que ces élèves-là, ils arrivent et quand ils ont, à travers ce qu'ils peuvent dire dans les réseaux sociaux, qu'ils représentent ça, bah, aller déconstruire et puis après reconstruire une estime de soi et une confiance en soi sur le fait qu'ils ont leur part à faire dans la société et ne leur donnez pas du coup des étincelles pour allumer des feux, parce que ça sert à rien d'autre qu'à allumer des feux. Non, je ne reconnais pas mes élèves à travers ça.
La journaliste a tout inventé, les élèves fichés S, les salafistes à l'hostilité décomplexée.
Bah, en tout cas, alors, excusez-moi, mais les fichés S, du coup, j'ai pas cette information-là. Non, j'ai des élèves en face de moi et des enfants aussi. Hein, donc, voilà.
Alors, elle disait aussi dans son article que la direction n'avait pas donné suite à sa demande d'interview. Vous avez un souvenir de ça ?
Il y a eu un droit de réponse hein, sur ça, et on a eu un audit de 2 jours aussi, juste après ça. Un audit de 2 jours qui a été très clair, dès les 2 jours d'ailleurs, parce que les auditeurs qui sont venus, dès les 2 jours, ils ont dit qu'il n'y avait absolument rien à dire. Il y a eu des datas aussi, puisqu'il faut des datas, et donc du coup, il y avait environ 40 jeunes filles qui se dévoilaient avant l'entrée du lycée, et on était autour de 4, peut-être 5 abayas qui étaient portés par les jeunes. Donc voilà. Donc,
d'accord.
La direction, elle n'a pas été contactée du tout. Alors peut-être que c'était la direction.
La journaliste de l'Express ne vous a pas contactée au moment où elle faisait son reportage.
Non.
D'accord. Et alors, comme l'Express aime beaucoup le lycée Joliot-Curie de Nanterre, ils y sont revenus à la rentrée de 2022, donc en racontant, alors à propos du voile cette fois et non pas de la baïa, que vous aviez, alors parce que un certain nombre de lycéennes en fait mettaient et enlevaient leur voile à l'intérieur de l'établissement, ce qui est interdit par la loi de 2004, et donc vous aviez installé un miroir à l'entrée de l'établissement pour que ces jeunes filles puissent enlever et remettre leur voile avant d'entrer dans l'établissement, miroir donc, qui a été enlevé par votre successeur.
Ah, d'accord.
Vous n'étiez pas au courant.
Ça
a enlevé votre miroir.
C'était un truc qu'on avait construit avec les élèves, en fait. Donc, elle le mettait à l'intérieur. On a trouvé les jeunes filles. Donc, j'ai discuté avec les jeunes filles, encore une fois, du pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ça, en fait ? Parce que vous comprenez bien que, du coup, ça va finir par être à votre détriment. Parce qu'on va faire un focus là-dessus. Il va y avoir une reprise. Et donc, encore une fois, on va pas pouvoir remettre au centre du débat le fait qu'on a besoin de plus de moyens pour vous aider à réussir, etc. Et donc, du coup, on va déplacer encore le problème sur le problème de laïcité, parce que là, du coup, se pose le problème de laïcité. Le fait est que c'est compliqué de remettre son voile, et donc, du coup, et qu'elles ont envie d'être jolies, ces jeunes filles. Et donc, du coup, c'est venu comme une évidence. Le miroir, par contre, ce qui est écrit dans l'Express, c'est qu'il est posé à l'intérieur du lycée, il était à l'extérieur du lycée, ce miroir. Donc, encore une fois, j'étais pas hors la loi.
Non, on le voit bien. Hélène Carey, vous voulez réagir ?
Je voulais réagir plus en tant que représentante de celui d'Éducation 93 et en représentant certains lycées, parce que du coup, dans l'article de l'Express que vous citiez, il y avait le lycée Angela Davis au site de Saint-Denis qui était cité. Il faut savoir que suite à cet article, il y a eu aussi des camarades du lycée tous syndiqués à celui d'Éducation, pas tous à celui d'Éducation ou au SNES, qui ont eu des blâmes, qui ont eu des convocations et des blâmes. Et qu'en fait, on retrouve de plus en plus cet aspect, enfin, vous avez parlé au début, peut-être qu'on en parlera plus tard, de cet aspect d'islamo-gauchisme, quoi, mais de l'éducation nationale qui est entreliée avec tous ces médias qui viennent sur toutes ces questions de laïcité faire des articles qui font monter certains aspects.
C'est-à-dire que vous avez l'impression que l'article de l'Express a été d'une certaine façon télécommandé par le ministère de l'Éducation nationale ?
Non, je dirais pas du tout. Je sais pas du tout ce que j'ai envie de dire. C'est juste que c'est dans plusieurs répressions qu'on a connues. C'était pas le cas de la mienne, mais par exemple pour les, je parle pas que de l'Express, hein, je parle de plusieurs médias. Par exemple pour les 6 de Pasteur qui ont été mutés, donc 6 d'une même école.
À quoi fait référence le t-shirt que vous portez ? Je sais pas si on le voit bien. On le voit bien.
Et ils ont été mutés, alors pas suite, mais ça a été mêlé dans cette histoire sur un article dans le média, entre guillemets, l'incorrect, quoi, qui est un média d'extrême droite, où on les a dénoncés, on les a même nommés, donc il y a des plaintes qui ont été portées par la suite. Et donc, où je voulais en venir, c'est que du coup, voilà, il y a des articles dans des journaux qu'on pourrait qualifier de droite et d'extrême droite, qui sont utilisés aussi par l'éducation nationale, et on voit de plus en plus aussi l'éducation nationale qui utilise ces médias pour dénoncer des choses. Ça a été le cas aussi dans un lycée.
Quand vous dites que l'éducation les utilise pour dénoncer des choses, ça laisse penser quand même que on pourrait soupçonner le ministère de l'Éducation nationale d'être à l'origine de ces papiers. Mais c'est pas ce que vous voulez dire.
Non, pas à l'origine, mais pour faire passer des messages. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. En fait, au lycée Berthelot de Pantin, il y a eu une formation. Donc, on est toujours sur des questions de laïcité. Hein. Là, c'est toujours. Il y a une formation sur la laïcité. Les collègues l'ont dénoncé parce que des propos très islamophobes au sein de cette formation, où on a dit que le recteur allait faire des descentes pour aller voir s'il y avait des jeunes filles voilées dans le lycée, etc. Je me permets de citer parce que ça a été recité comme ça. Et suite à ça, il y a eu au conseil d'administration, donc les représentants syndicaux ont lu une fable. Et le camarade qui a eu la fable, qui était un camarade de sud éducation, on a porté plainte contre lui et depuis il a reçu un blâme. Et tout ça, ça a été. Nous, on n'a jamais contacté les médias, l'Express, je crois que Le Point avait fait un article. Il n'y avait que la parole de l'Éducation nationale dans ces journaux, en fait.
Caïterda ?
Oui, juste, je voulais préciser. Donc, juste après l'article que vous avez montré sur. Donc, il traitait à la fois d'Angela Davis et du lycée Jules Curie en 2019. Le lendemain ou le surlendemain, si je me souviens bien, Jean-Michel Blanquer est interviewé par l'Express dans ce même journal pour s'exprimer justement sur cette question précise. Et à ma connaissance, c'est quand même très très rare qu'un ministre de l'Éducation nationale réagisse deux jours après un article comme ça, et en plus vraiment pour dérouler le discours ministériel. Donc, est-ce qu'il a été à l'origine? Bon, ça, on a qu'un élément pour dire ou quoi, mais on sent quand même une forme de connivence qui me paraît assez évidente.
Alors, on parle là de la période du ministère Blanquer. Là, le ministre de l'Éducation a changé. Il s'appelle maintenant Pape Ndiaye, et donc c'est lui qui a hérité de cette question entre guillemets des abayas. Je voudrais vous faire entendre sa réponse à la question sur le plateau de France 2.
Quelle est la consigne claire que vous donnez au chef d'établissement? C'est en abaya, on ne rentre pas dans un établissement, en camis pour les garçons, on ne rentre pas, c'est ça la règle ou pas?
Alors la règle, donc, c'est la loi de 2004, pas de tenue de nature religieuse,
on sait qu'elle n'est pas
ostensible.
Toujours respectée.
Alors, ça n'est pas toujours facile à faire, mais nous faisons confiance aux chefs d'établissement, aux cellules valeurs de la République, qui sont là aussi pour les épauler. Il y en a dans beaucoup de départements et dans toutes les académies, pour pouvoir juger si la tenue est de nature religieuse. Si, par exemple, s'il s'agit d'une jeune fille, si la jeune fille refuse de changer de tenue, si elle porte cette tenue de façon très régulière dans la semaine, alors on a des indications qui peuvent nous laisser penser qu'il s'agit d'une tenue de nature religieuse.
Et ces élèves-là ne doivent plus rentrer habillés comme ça dans les écoles françaises?
Exactement.
Absolument. Est-ce que le bandana qui sert à couvrir les cheveux et qui remplace discrètement le voile est toléré, lui?
Là encore, tout dépend.
C'est du contournement.
Cela dépend. Il y a des bandanas qui n'ont pas de nature religieuse. Tout dépend de la destination, finalement. Tout dépend de l'intention de celui ou celle qui la porte.
Alors, je ne sais pas si vous avez parfaitement compris la consigne du ministre. Moi, je dois avouer, je ne l'ai pas compris. C'est-à-dire, petit 1, on ne sait pas si l'abaya est un vêtement religieux ou si simplement les jeunes filles le portent parce que ça leur plaît. Petit 2, on leur demande quand même de l'enlever. Et si elles ne veulent pas l'enlever, et si elles refusent à plusieurs reprises de l'enlever, on en déduit que c'est un vêtement religieux. Mais alors pourquoi on leur demande de l'enlever si on ne sait pas que c'est religieux a priori? Mais voilà, je dois pas être aussi intelligent que le ministre. Barbara Martin?
Je voudrais juste dire que par rapport à cette tenue-là, retirer, ça veut dire retirer dans les conditions dans lesquelles elles doivent être retirées. Et par exemple, ça peut être la pratique sportive. Donc du coup, si la tenue est bien retirée parce que pour courir 100 mètres... il faut être en tenue sportive, bah donc on n'est plus dans le caractère.
Merci d'avoir fait l'explication de texte du ministre. Vous aviez l'an dernier des élèves en abaya?
Alors, moi j'ai toujours du mal. Enfin, quand j'ai essayé, du coup, de, puisque la polémique est sortie, de regarder sur Internet la définition exacte de ce que c'est qu'une abaya. J'ai toujours pas très, très bien compris.
Il y a
du
des
coup.
Images, quand même.
Oui, il y a des images, mais il y en a beaucoup. Donc, du coup, moi, j'ai toujours un peu de mal. Bon, mettons. Mais si on prend les jeunes filles qui sont toujours en robe longue, on va dire ça comme ça, puisqu'il y en a. Si je compte par exemple le nombre d'élèves qui sont toujours en robe longue qui changent jamais, on va dire il y a l'année dernière j'en avais peut-être sur mes trois classes, j'avais zéro sur une classe, une sur une autre classe et peut-être trois sur la dernière classe, quelque chose comme ça. Et non mais juste je voulais revenir sur les consignes ministérielles. Donc moi j'ai un petit peu plus regardé en détail les recommandations, donc les cellules laïcité, etc. Et quand même le mot qui revient en tête et qui doit être le marqueur pour ça, pour déterminer si c'est vraiment une tenue religieuse ou pas, c'est le prosélytisme. C'est-à-dire est-ce que concrètement il y a une action de la part de la personne qui le porte pour promouvoir, etc., etc. Et moi, enfin, donc pour recoller avec ce que je viens de décrire, en fait, dans nos classes, il se trouve que les élèves changent très très peu de tenue. Il y a peut-être une étude sociologique à faire à ce sujet, mais en fait, vraiment, les gens qui sont en jean restent en jean toute l'année, les gens qui sont en survêt restent en survêt toute l'année, les gens qui sont en robe longue restent en robe longue toute l'année. En fait, par exemple, sur la période du confinement, quand tout le monde était masqué, la façon la plus simple de reconnaître les élèves, c'était de voir comment ils étaient habillés, en fait. Et donc, du coup, les gens ne changent pas d'habits au fur et à mesure. Et si, par exemple, j'ai une jeune fille qui est en robe longue dans une classe et qu'elle a des amis autour, elle a des camarades de classe avec qui elle est très liée, il y a souvent des gens qui sont tout le temps ensemble, qui s'asseyent systématiquement ensemble à côté en classe, qui viennent ensemble en cours, qui sortent ensemble en cours, etc., etc. Moi, je n'ai jamais constaté, par exemple, qu'une copine d'une fille en robe longue se mettait à porter une robe longue derrière. Ouais. Donc, l'effet
et j'imagine l'inverse non plus.
Et l'inverse non plus. Enfin, alors là, sur l'inverse, bon, j'ai une petite anecdote assez amusante à raconter. C'est que, donc, un jour, je suis en train de marcher dans les couloirs et il y a une élève qui vient un peu à pas assez rapide vers moi. Donc, c'est une jeune fille donc, avec piercing, jean troué, blouson en cuir, etc., etc. Elle me fait un grand sourire, dit « Vous me reconnaissez, monsieur ?» Et c'est vrai que j'ai dû réfléchir deux secondes, parce qu'en fait, c'est une élève que j'avais eue deux ans avant, en seconde, et qui, en seconde, pour le coup, portait ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler une abaya, je pense. Et elle m'a fait un grand sourire, et c'est vrai que j'ai dit « Ah oui, tu as beaucoup changé. » Et c'est le genre d'anecdote qui fait me dire « Faut arrêter d'envoyer les fantasmes que l'on a dans la société, de les projeter sur… des jeunes qui sont en pleine construction, qui sont en pleine recherche identitaire, qui se posent beaucoup de questions. Ce dont ils ont besoin avant tout, c'est un climat serein dans lequel ils puissent s'épanouir, dans lequel ils puissent se construire, dans lequel ils puissent se poser de bonnes questions. Moi, c'est ça la mission que je me donnais. Et tout le bruit et la fureur qu'il y a autour, qui nous ramène sans arrêt ces thèmes qui sont en plus extrêmement clivants, ça nous aide pas, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire bon, que nous, ce dont on aurait besoin, c'est qu'on arrête de nous embêter, qu'on nous laisse travailler, qu'on nous donne des moyens de travailler, etc.
On va venir aux moyens. Donc, message envoyé à Eugénie Bastier du Figaro, notamment, si elle regarde cette émission, mais je suis pas sûr que vous arriverez à la convaincre. Hein. Alors, les moyens, puisque les moyens sont aussi, sont le premier point qui a été évoqué par les élèves qui ont bloqué l'accès de Joliot-Curie à la rentrée. Là, d'ailleurs, si on regarde le tract qu'ils avaient édité et que vous nous avez envoyé, Kaïté Rada, les revendications sont les suivantes. Petit 1, le retour de l'aide aux devoirs. Petit 2, l'arrêt immédiat des dérives autoritaires de la direction. Ça, c'était pour la Baïa, hein, même si le mot n'est pas prononcé.
Il y a
autre chose ?
Il y a autre chose. Il y a beaucoup de choses.
Alors, en un mot, puis... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les dérives autoritaires ?
Alors moi, j'étais suspendu du lycée Jules Curie depuis, oui. depuis le 30 août, donc je n'ai pas fait la rentrée, si vous voulez. Oui. Donc moi, je parle par oui-dire de ce que, de ce que m'ont dit mes collègues. Mais parmi les choses qui ont énormément suscité de réactions vis-à-vis des élèves par rapport à l'autoritarisme de la direction, il y a aussi le fait qu'avant, on pouvait amener de la nourriture. Enfin, les élèves pouvaient amener de la nourriture au lycée et pouvaient se restaurer à l'intérieur du lycée. Et là, de façon unilatérale et sans explication, ça a été interdit, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup dérangé les élèves, qui est très, très peu repris, il me semble, dans les médias, mais qui est explicitement dit par les
collègues. Mais c'est-à-dire qu'ils amenaient leur repas de midi au lycée ?
Oui.
Mais pour quelle raison ? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer la cantine ? Pour quelle raison ?
Alors ça, honnêtement, la raison de pourquoi est-ce que certains élèves amènent après c'est un lycée exep en milieu populaire et c'est typiquement les genres de lycées dans lesquels on a une fréquentation de la cantine qui est assez faible quoi. Donc il y a
pour des raisons financières.
Il y a beaucoup de familles qui ont du mal à payer d'un coup les frais de cantine sans doute qu'il y a ces explications-là qui jouent aussi.
Alors, le troisième point sur le tract, en caractère plus petit, hein, on l'aura noté, en caractère minuscule, ce mouvement témoigne néanmoins d'un soutien indéfectible envers M. Kai Terada, c'est-à-dire que vous êtes vous êtes la troisième motivation.
Le néanmoins est très mignon d'ailleurs. Je ne sais pas très bien ce qu'il vient faire, mais il est très mignon.
Et l'indéfectible est aussi extrêmement mignon.
Oui. Et quand on regarde le tract vraiment attentivement, ouais. Les choses sont quand même assez claires. Hein, parce que nos revendications sont les suivantes, deux points avec deux tirets. Donc le premier tiret, c'est le retour de l'aide aux devoirs. Le deuxième tiret, c'est l'arrêt des dérives autoritaires de la direction. Et le tiret s'arrête là. Et après, il y a le soutien qui est exprimé envers moi. Quoi.
Il y a une explication claire à l'absence de tiret sur le troisième point.
Moi, alors c'est peut-être ma déformation de syndicaliste, mais à partir du moment où vous ne mettez pas dans le tiret, ce n'est pas une revendication.
Oh là, vous faites très bien de décoder, hein, je n'ai pas compris moi.
Parce que c'est peut-être ma déformation syndicale, encore une fois. Mais quand on est un syndicat, on a plusieurs moyens d'expression ou de lutte. Et des fois, ça nous arrive de faire ce qu'on appelle des communiqués de soutien. Par exemple, moi, depuis mon affaire, je reçois des communiqués de soutien de structures syndicales, de syndicats qui m'envoient des communiqués et disent nous soutenons notre camarade Kai Terada, etc. Et en dehors de ça, il y a, par exemple, poser des préavis de grève pour appeler à la grève, poser des rassemblements, et des tracts revendicatifs qui disent, nous engageons un bras de fer avec la direction pour tel motif. Et nous, on fait bien la distinction. C'est-à-dire que quand on envoie un communiqué de soutien et quand on fait un préavis de grève pour faire un rassemblement, etc., etc., c'est deux choses différentes. Quoi.
Mais votre explication est tellement lumineuse et fine qu'on pourrait avoir le soupçon que, quelque part, ce sont les syndicalistes enseignants qui ont dicté le tract des lycéens. Mais vous allez le démentir fermement.
Alors après, franchement, je vais vous dire, bon, ça m'a fait un chaud au cœur hein, de voir le tract et je l'ai beaucoup aimé. Après, très honnêtement, si c'était un syndicaliste qui avait écrit le tract, il y a des choses qui auraient été écrites de façon différente, je pense.
Bon, allez, on ne va pas prolonger la exégèse du tract. L'aide aux devoirs, Barbara Martin, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est si important aux yeux de ces lycéens ?
Parce que le premier sujet, c'est celui de l'égalité. Et que pour que ce soit. Je pense qu'il faut venir, passer quelques heures en classe, venir aussi faire. Quand on arrive en seconde, on a. Je vais prendre l'exemple des mathématiques, puisque mon collègue est là, mais l'équipe de mathématiques fait un diagnostic des besoins des élèves et donc on voit quand on arrive en seconde que nos 500 secondes ils ont des besoins parce que on avance pas après pas il faut donner du temps supplémentaire à ces élèves là pour surmonter des difficultés pour les appuyer dans leur dans leur construction de connaissances et compétences. Et donc, du coup, il faut du temps en plus et il faut des moyens. Et donc, l'aide aux devoirs, ça fait partie des moyens que l'on peut proposer à nos élèves. Et donc, on avait le soir, je peux aussi l'associer au dispositif quand on était au collège qui s'appelait devoir fait. Ce n'était pas juste de dire de faire les devoirs, c'était aussi un principe d'égalité, de dire qu'on n'est pas tous égaux face à ce que l'on a quand on rentre à la maison. Et donc, l'aide aux devoirs, c'est aussi de dire nous, on est là et on a l'expertise justement pour vous donner un coup de main sur la compréhension de certaines choses. Et d'ailleurs, le coup de main, il pouvait être donné par des professeurs, il pouvait être aussi donné par des élèves entre élèves. On voyait des élèves s'entraider. Donc, on construit d'autres choses et d'autres compétences psychosociales à l'intérieur de ça. Et ça veut dire qu'on construit une autre société. Donc, ça a un impact sur beaucoup de choses.
Mais alors, quand on dit des moyens, ça veut dire de l'argent, un budget, puisque ces heures supplémentaires sont payées aux professeurs. Est-ce que ce budget a été remis en cause et a été diminué à Joliot-Curie depuis le départ de Barbara Martin, Kaïterada ?
Mais même avant.
Même sous Barbara Martin ?
Bah, depuis, en fait, les moments où on a commencé à perdre vraiment énormément de moyens de DAG, c'est l'année 2020. Ça correspond en fait à une période qui a été vraiment très très difficile pour toutes les mobilisations sociales, en particulier dans l'éducation, c'est le confinement.
Bien sûr.
Et par exemple, c'est l'une des rares années, on pourrait dire, au lycée Joliot-Curie où on n'a pas fait de mouvement de grève et de rassemblement devant la direction académique des Hauts-de-Seine pour réclamer plus de moyens parce que y avait le confinement. Puis même après, en 2021, ouais, même si les règles de confinement étaient moins strictes, c'était quand même beaucoup plus difficile de rassembler les gens dans des heures d'information syndicale, de faire venir des gens dans les manifestations. Et je pense que ça explique aussi pourquoi est-ce que sur ces années-là, on a énormément perdu de moyens en dotation horaire.
Oui, donc c'est alors que vous étiez proviseur, Barbara Martin, que les heures d'aide aux devoirs ont été réduites. C'est bien ça ?
Les heures de, en fait, c'est la dotation globale horaire qui a été réduite. Ah. Donc voilà, à un moment donné, il y a des choix à faire et donc ils ont été de plus en plus difficiles. C'est ce qu'on appelle la marge d'autonomie et on avait de moins en moins de marge d'autonomie. Donc on en revenait de plus en plus aux horaires réglementaires et donc les choix ont été difficiles en effet.
Alors, j'ai lu votre livre, et c'est vrai que dans ce livre, bon, vous apparaissez comme une proviseure incroyablement à l'écoute de l'équipe enseignante, à l'écoute des élèves, à l'écoute de tout le monde, bienveillante, pratiquant le dialogue, la concertation, etc. Et on en retire à la sortie l'impression que finalement, si tout le monde était comme vous, c'est-à-dire si tout le monde... Non mais, ça se passerait mieux. Est-ce que c'est votre conviction ?
Si ça s'appelle la méthode Barbara, c'est que c'est juste la mienne de méthode. Oui. J'ai pas
si vous faites un livre, c'est que si vous faites un livre, c'est que vous estimez qu'elle peut donner des idées aux autres.
En tout cas, je peux juste te dire qu'au moins j'ai le courage de raconter une histoire et que c'est pas si simple dans notre métier et avec ma fonction de raconter cette histoire. Et donc du coup, peut-être qu'on peut au moins dire que j'ai ce courage-là de montrer là où peut-être se trouvent les soucis et peut-être d'apporter la solution que j'ai apportée à ce moment-là.
Mais ça pose une question de fond. Ça pose une question de savoir si pour que l'éducation nationale aille mieux, est-ce qu'il faudrait qu'on ait des centaines de Barbara Martin ou est-ce que même avec des centaines de Barbara Martin, il y a des problèmes de moyens, notamment, qui feront que, tant que ces problèmes de moyens ne seront pas résolus, ça ne pourra pas aller mieux. Je vais vous prendre un exemple, il est récent, il est aussi dans l'Académie de Versailles, la fameuse expérience des job dating, c'est-à-dire des profs recrutés par des avec, je crois, 3 ans de formation universitaire et recrutés après des entretiens de 30 minutes, je crois, qui ont donné lieu à de nombreux reportages comme celui-ci.
Ceux qui ont un entretien calé à 10h, bienvenue, venez.
Rectorat de Versailles ce matin. Une trentaine d'aspirants professeurs attendent de passer leur entretien d'embauche pour devenir contractuels. Pour postuler, un bac plus 3 suffit. Les candidats ont donc des profils éloignés de l'enseignement.
J'étais fiscaliste à EDF. Voilà, donc j'ai complètement bifurqué, je me suis arrêtée et puis j'ai repris. Je me suis dit, c'est les temps de travailler avec des grands enfants, c'est bien.
J'ai eu 4 enfants, je me suis occupée d'eux. Ça m'a intéressé de faire le programme de maths avec eux. Et puis, j'atteins la cinquantaine, donc je me dis qu'il faut peut-être changer un petit peu de vie, avoir un autre rythme.
Fiona Ansenmo est accompagnatrice d'enfants en situation de handicap. elle est venue tenter sa chance, 30 minutes, pour devenir enseignante en primaire. L'opération se fait en partenariat avec Pôle emploi. Au total, l'Académie de Versailles propose 2000 postes à pourvoir dès la rentrée.
Barbara Martin, est-ce que même avec la meilleure volonté du monde, le sens du dialogue le plus aigu, la plus grande bienveillance, vous estimez que ce système de recrutement est viable ?
Là, on met le doigt sur quelque chose qui n'est pas celui du job dating, mais celui de la formation. Parce que ce n'est pas nouveau de recruter des contractuels. Ça date d'il y a bien longtemps. Et quand j'étais principale d'un collège en Essonne, on avait commencé une année avec 80 professeurs de mathématiques qui manquaient dans l'académie. Donc, avoir des contractuels, ce n'est pas du tout nouveau. Et je pense que la lumière doit être faite sur la formation. C'est-à-dire que quand on a recruté quelqu'un qui n'est pas enseignant et qu'on lui donne son emploi du temps et qu'on lui dit deux jours après, tu vas devoir enseigner face à une classe. Déjà, prendre une classe en milieu d'année, déjà juste faire un remplacement, en fait, c'est difficile. Donc, en fait, il faut du temps, il faut pouvoir les former. Souvent, du coup, ça retombe sur la bienveillance, non pas du chef d'établissement, mais des collègues qui, du coup, vont donner un coup de main à ces contractuels. Mais en fait, ça ne suffit pas. Ça ne s'improvise pas, en fait, d'être enseignant. Donc, pour moi, le sujet, c'est la formation.
Hélène Careil, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais je vous pose la question. Est-ce que pour que l'éducation aille mieux, le fait que le chef d'établissement, le directeur, la directrice, le proviseur, la proviseure, soit quelqu'un qui est plutôt à l'image de Barbara Martin, est quelque chose qui peut suffire ?
Je crois qu'on a, il y a la réponse dans la question, donc c'est non, quoi. Là, on voit que vous avez montré une archive avec Véronique Descaires, donc mon ancienne directrice, qui parlait de la casse de l'école publique avec de moins en moins de RASED. Donc les RASED, c'est les enseignants spécialisés. Donc on se retrouve dans la plupart des écoles, enfin moi je parle pour le 93, où on n'a plus de psychologues scolaires, plus d'enseignantes spécialisées qui travaillent avec les enfants en petits groupes. On a bien sûr de plus en plus de contractuels et voilà, ce qui pose problème, comme on a pu le dire, c'est que c'est des personnes non formées qui débarquent du jour au lendemain dans une classe. Il y a énormément de choses. Il y a aussi toutes les injonctions de là-haut, du ministère, quoi, sur notre liberté pédagogique qui est de plus en plus remise en cause. Enfin, vous n'avez pas évoqué la pédagogie Freinet, mais c'est depuis plusieurs années aussi, on le voit. Enfin, on n'est plus aussi libre de mener comme on souhaite le programme dans notre classe, avec des injonctions. Moi, j'étais enseignante en CP, donc de plus en plus, il y a eu ce petit livre orange sorti par Blanquer. Pour nous dire comment on doit apprendre à lire aux élèves sans nous laisser cette liberté-là.
Mais qui a été saqué en vous, selon vous ? C'est la syndicaliste ou c'est l'adepte de la pédagogie Freinet ? Pour quelles raisons vous avez subi cette mutation ? Selon vous, hein ?
C'est un mélange, je pense, parce qu'en fait, les deux se rejoignent. Enfin, je m'identifie comme militante pédagogique, militante syndicaliste, mais en fait, par mon syndicat, je défends la pédagogie Freinet, et dans la pédagogie Freinet, je défends aussi des revendications syndicales. La plupart des enseignants et enseignantes en pédagogie Freinet, c'est une pédagogie qui se veut politique, et du coup, on est militants. Je connais très peu d'enseignants et enseignantes en pédagogie Freinet qui ne sont pas syndiqués dans... Peu importe le syndicat, mais en tout cas qui ont une...
Vous pouvez donner deux ou trois exemples de ce qu'est une pédagogie politique. Ça veut dire quoi, une pédagogie politique ?
Je mettrais aussi le mot émancipation. En fait, ouais. C'est une pédagogie émancipatrice où on va travailler avec les élèves pour développer en eux un sens critique. On travaille avec beaucoup aussi avec d'où ils viennent. Donc on prend les élèves tels qu'ils sont, d'où ils viennent. Donc on va beaucoup sortir en dehors de l'école pour travailler sur le milieu dans lequel on vit, avoir un regard critique sur ça.
Rencontrer des interlocuteurs. Vous me disiez par exemple rencontrer les élus locaux de la ville pour monter des projets avec eux. Je veux dire, dites-moi si c'est bien ça. Associer les élèves aux projets qui peuvent être montés, aux projets de visite, aux projets de voyage.
Exactement. Dans nos classes, on a des conseils de classe, des conseils d'école quand on arrive avec les collègues à le faire. Et donc, on travaille sur tout ça, sur aussi tout ce qui est, oppression. On travaille sur l'égalité filles-garçons, on travaille aussi sur les questions de racisme, d'antisexisme.
Ça, j'ai envie de vous dire que j'espère que tous les professeurs des écoles travaillent sur les questions de racisme. Et sur les questions filles-garçons, non ?
A priori, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque je vais réévoquer les camarades de l'école Pasteur qui ne s'identifient pas pour la plupart enseignants en pédagogie Freinet, qui ne le sont pas. Par contre, dans cette école, il y a eu un gros travail depuis des années qui est fait sur égalité filles-garçons, donc avec des associations du quartier, etc. C'est ça aussi que dans... Là où il y a des mutations, là dans nos deux écoles primaires où il y a eu des mutations, c'est des écoles qui sont avec des équipes militantes qui travaillent en coopération. On nous reproche de travailler en équipe à chaque fois.
On reproche de travailler en équipe.
Oui, c'était marqué noir sur blanc, pas sur mon dossier, mais sur le dossier des 6 de Pasteur, mais moi ça transparaissait aussi, de travailler en équipe. Alors pourtant c'est une compétence qu'on est censé avoir.
Comment on peut reprocher aux enseignants de travailler en équipe? Quel argument on trouve pour leur dire « c'est pas bien de travailler en équipe » Non, mais j'imagine qu'ils trouvent des arguments quand même.
Eh bien, ils trouvent des arguments de on voudrait être en autogestion, on voudrait. Il y a le mot autogestion qui est revenu. Oui. Il y a le mot, du coup. Je pense que c'est aussi une volonté de faire en sorte qu'on soit des bons petits soldats et que, du coup, à partir du moment où on travaille en équipe, où on discute de ce qu'on met en place dans nos classes, où on essaye de faire un projet d'école digne de ce nom, etc. Et ça ne leur plaît pas parce que on conteste aussi certains aspects de ce qu'on nous demande de faire. Les évaluations nationales, par exemple, de CP, oui, les collègues qui ont été mutés, moi et les collègues de Pasteur, on a tous eu un regard critique, soit refusé, soit en tout cas contesté les évaluations nationales de CP.
D'accord. Ouais, oui. À partir du moment où on réfléchit en équipe, c'est le bordel.
Ouais. Selon les familles, élèves, je pense que non.
et pas les élèves.
Oui, parce que je voudrais revenir aussi sur... je le sors souvent, mais on nous mute dans l'intérêt du service. Mais dans l'intérêt du service de qui? Dans l'intérêt de qui? C'est pas dans l'intérêt des élèves, en fait. Les collègues qui sont mutés... Moi, la personne qui m'a remplacée, c'est une contractuelle. J'ai rien contre les contractuels, mais quelqu'un qui n'est pas formé. Pour les collègues et camarades de Pasteur, c'est la même chose. Et on ne nous reproche pas notre professionnalisme. Par contre, il faut savoir que dans tous nos dossiers, on ne nous reproche jamais. Nos inspections se passent bien. On ne nous reproche pas. On nous dit non, vous êtes une excellente enseignante. C'est très bien. On ne remet pas ça en cause. Ce qu'on remet en cause, c'est vraiment notre place au sein de l'équipe éducative de l'école.
Vous avez parlé plusieurs fois de vos collègues de Pasteur. Je rappelle que c'est je ne sais pas si on peut le voir de plus près d'ailleurs, c'est le motif du t-shirt que vous portez, si on peut bien le voir. Alors j'ai essayé d'inviter certains de ces collègues donc c'est une école, c'est des enseignants de primaire, oui. Comme vous. J'ai essayé d'inviter certaines d'entre elles, parce que c'est essentiellement des femmes. Et ce que j'ai découvert, c'est que elles sont, après leur mutation dans l'intérêt du service, dans un état psychologique qui ne leur a pas permis de venir sur un plateau. Enfin, c'est dur. Enfin, j'ai découvert que c'était dur de... Alors, vous deux, je ne sais pas par quel miracle vous êtes parvenus à surmonter ça et à rester debout, mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, quoi.
Non, c'est une grande violence, en fait. Moi, ça faisait 10 ans que j'étais dans une école. Les collègues de Pasteur, en effet, mais il y en a certaines qui ne sont pas encore capables de reprendre une classe, en fait. C'est trop dur pour elles de se retrouver devant des élèves, alors qu'elles ont fait leur boulot. En fait, on s'est investi, les 7, pour parler pour nous 7, de l'école, des deux écoles du 93, on s'est investi vraiment, on restait à l'école jusqu'à 18h. On a emmené nos élèves pratiquement chaque année en classe de découverte. On a passé beaucoup de temps à travailler avec les associations de quartier, avec les familles. Enfin, c'est tout un lien qui a été tissé. Et du jour au lendemain, en fait, on nous expulse de cette école où on a tout construit. Enfin, peut-être on était trop investis. Moi, à mon sens, j'étais peut-être trop investie, mais c'est avec plaisir que je le faisais. Les collègues de Pasteur, c'est pareil. Et du jour au lendemain, on vous dit, non, en fait, vous partez de cette école sans même en faisant à peine vos cartons, parce qu'en école primaire, on a beaucoup d'affaires dans nos classes, quoi, personnelles. C'est beaucoup d'investissement. Et à cela, j'en discutais avec Aïe tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça ajoute. Donc, nous, on le prend comme une sanction. L'éducation nationale nous dit que ce n'est pas une sanction, nous, on le prend comme une sanction. Et ça ajoute aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les rumeurs, parce que pour justifier nos mutations, ils ont mis n'importe quoi. Enfin, l'administration est capable de dire n'importe quoi, en fait. C'est beaucoup de mensonges qu'on n'arrive pas à prouver. On ne peut pas se défendre, puisqu'à aucun moment. Puisque ce n'est pas une sanction disciplinaire, ça ne passe pas par une commission. Donc, moi, je n'ai jamais été convoquée.
Vous pouvez donner un exemple de mensonge?
Moi, par exemple, on m'a reproché d'envoyer des dizaines de mails injonctifs par jour. Ils n'existent pas, ces mails. Par contre, c'est à moi de prouver qu'ils n'existent pas. Dans les deux cas des mutations aussi, ça a été beaucoup de rumeurs dans le quartier, etc., de choses qui ont été dites sur nous. pareil, on peut pas aller porter plainte au fond de nous. Enfin, mais c'est pas assez fondé.
Qui peut faire courir une rumeur dans le quartier ? C'est pas l'inspecteur d'académie ou le rectorat qui va faire courir une rumeur dans un quartier ?
Non, c'est parce que justement, c'est une procédure qui est. Les parents, ils apprennent du jour au lendemain qu'une enseignante doit partir de l'école. Donc il faut faire tout un travail avec ses parents pour expliquer ce qui arrive réellement. Mais forcément, il y a plein de choses. Enfin, on ne maîtrise rien. Enfin,
Il y a eu des rumeurs sur vous ?
Oh oui, il y a eu beaucoup de rumeurs. Oui, j'ai décidé de ne pas en faire cas. Peut-être que j'aurais dû plus. Mais et pour les camarades de Pasteur, c'est la même chose.
Qu'est-ce qu'on a dit sur vous ?
Ben, ça va être des choses sur ma façon que j'étais pas... Que j'étais pas une bonne enseignante, j'étais une bonne éducatrice, mais pas une bonne enseignante. On m'a reproché de gérer la coopérative scolaire avec d'autres collègues, hein, mais on m'a reproché d'avoir détourné de l'argent, etc. Plein de choses comme ça. Donc en fait, c'est tout ça. Et on doit passer déjà qu'on est très mal parce qu'on vient d'être sorti d'une école où on s'est investi pendant des années. Et en plus, on doit faire face à toutes ces rumeurs qu'on ne sait pas comment contrer, en fait. Donc soit ça nous passe au-dessus, soit ça nous affecte. Enfin voilà, il faut trouver des solutions. Mais pour voilà, ça c'est très très violent ces mutations là et en fait ils veulent juste retrouver et ce que je voulais dire aussi c'est que pour retrouver ils font ça dans l'intérêt pour retrouver la sérénité de l'école. Donc ça a été la même chose pour le lycée. À l'école Marie Curie, il n'y a jamais la sérénité qui est revenue, l'équipe a éclaté et en fait il y a pratiquement plus personne avec qui j'ai travaillé avec les personnes qui étaient là à l'époque de Madame Decker. La même chose à Pasteur, il n'y a plus personne pratiquement dans cette école. Donc c'est pas dans l'intérêt de l'équipe, c'est pas dans l'intérêt des élèves. Donc dans l'intérêt de qui on est muté, ça je ne sais pas.
Merci pour ce témoignage à tous les deux. Je crois que vous avez fait découvrir une réalité des rapports hiérarchiques à l'intérieur de l'éducation nationale qui est peu connue à l'extérieur, oui.
Oui, je voulais du coup juste rajouter un mot par rapport au collectif Sois propriété toi dont nous faisons partie. Tous les deux, en fait, suite à mon histoire qui a un peu fait du bruit, du coup, j'ai reçu des contacts de gens qui avaient été victimes de répression, avec lesquels on n'avait pas été en contact jusque-là, de comités de soutien aussi, de collègues qui avaient été réprimés. Et on a monté un petit peu comme ça
un
collectif, donc qui s'appelle le collectif Sois prof et tais-toi. Donc, qui comprend notamment les personnes qui ont essentiellement été réprimées sur la question des E3C, comme les cadres de mail, les collègues du lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.
Mais par contre, on va donner. Vous avez un site qui suit votre affaire à vous. Hein.
On n'a pas encore de site. La mienne propre.
Oui, la
mienne propre. Voilà. Il existe un site.
On donnera le lien dans le contenu de l'émission.
Et si c'était possible, du coup, pour toutes les personnes qui ont été victimes de répression, oui, et qui souhaiteraient rejoindre le collectif, c'est possible l'adresse mail de contact, si vous pouviez le mettre sur...
Ah bah alors, donnez-la. C'est quoi l'adresse mail de contact
je l'ai...
Vous l'avez plus en tête.
En fait, elle est assez longue. Donc, la dire à l'oral, ça va être un peu compliqué.
On l'indiquera sur le contenu. Merci à tous les deux. Merci Barbara Martin. Vous allez maintenant attaquer votre journée. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.